Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage. Bonsoir à tous, voici les nouvelles qui font l'actualité ce soir. Procès historique, Joseph Kabila jugé par coutumance devant la haute cour militaire. L'ancien président congolais fait face à une dizaine de chefs d'accusation dont trahison et crime contre la paix. L'audience d'ouverture marquée par son absence a été renvoyée au 31 juillet à la demande de la partie civile. Chopo, une ONG, salue le calendrier électoral, mais reste vigilante. L'action pour la justice, le développement et le droit humain appelle la CENI à garantir un processus inclusif, transparent et crédible pour renforcer la confiance des citoyens. Invité du jour, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI. Il revient sur les ajustements du calendrier électoral local et les enjeux de la dernière phase de cycle électoral en RDC. C'est tout pour les titres. C'est une affaire qui fait grand bruit en RDC. La haute cour militaire a ouvert ce vendredi le procès de l'ancien président Joseph Kabila. Une audience très attendue, même si le principal concerné est absent. Il est jugé par coutumance. L'auditeur général des FARDC a présenté une dizaine de chefs d'inculpation à l'encontre de l'ex-chef de l'État. Aujourd'hui, sénateur à vie des faits graves prévus et punis par le code pénal congolais. Seuls les avocats de la partie civile représentant la République était présent à l'audience. Ils ont demandé un renvoi au 31 juillet pour examiner les pièces du dossier. Le compte-rendu de Jeff Fangoy.
À l'entame du procès, le greffier fait savoir que plusieurs tentatives pour atteindre le sénateur à vie à sa résidence de Kinshasa en vue de lui signifier le mandat de sa comparution ont échoué. Il ressort de l'acte d'accusation plusieurs charges contre Joseph Kabila, notamment en tant que l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC, avec pour branche armée M23 appuyé par RDF, et le mercenaire de diverses nationalités dans la province du Nord Kivu, co-auteur pour avoir commis par l'intermédiaire de Corneille Nanga, coordonnateur du dit mouvement terroriste, l'homicide intentionnel de 31 personnes, une tentative d'homicide intentionnel sur 21 autres. L'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées. Dans la province du Sud Kivu, il est poursuivi en tant que co-auteur toujours par l'intermédiaire de Nanga du chef des crimes de guerre dont le viol, les tortures, l'homicide intentionnel par balle, déportation, participation à un mouvement insurrectionnel, autant de charges qui pèsent sur Kabila.
En lien avec cette affaire, une question s'impose. Quelle portée peut réellement avoir un procès aussi symbolique en l'absence du principal accusé? Pour le ministre intérimaire de la justice, il n'y a pas de doute. La justice suit son cours sans se laisser influencer par les agendas politiques. Il insiste, la procédure est non négociable et le calendrier judiciaire reste indépendant. Samuel Mbemba répond aux questions de Jeff Ngoy.
La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après.
Sécurité à présent dans les territoires de Rutshuru, dans Kivu, la tension monte dans le groupement de Binza. Plusieurs habitants de villages de Nyabanira, Kasave, Makoka sont sommés de quitter leur foyer en cause les opérations militaires en cours dans la zone. Selon des sources locales, cet ordre d'évacuation viendrait de la rébellion du M23. Depuis le 12 juillet, les populations fuient vers Kakondo, Shinda, Kisharu, Kiseguru et Kiwanja. Un mouvement qui s'est intensifié ce vendredi. Le HAM 23 Ménéré, selon un notable local, une vaste traque contre le FDLR dans la région. Ce dernier s'inquiète des conséquences sur les civils pris au piège entre les lignes de front. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
La zone est déjà déclarée une zone opérationnelle sous motif que les M23 sont en train de chasser les FDLR qui pourraient être dans la zone. Voilà encore la souffrance de la population qui quitte les milieux sans avoir à manger, sans savoir là où on va. Tout le monde voudrait sauver sa vie car la zone est tellement une zone très compliquée à cause des hostilités qui opposent toujours les M23, Oazalendo et les FDLR qui sont dans la région. Alors, ce sont les populations civiles qui sont en train de payer les pots cassés. Lorsque les habitants se rendent au champ pour aller chercher à manger, ils sont massacrés. Voilà en tout cas encore la souffrance que subissent les habitants de cette contrée telle que les autres sont en train de les subir dans la partie ouest du territoire de Rutshuru en chefferie de Bwito.
Et pour clore ce chapitre sécuritaire, tension ce vendredi matin à Butembo, dans le nord de la province du Nord Kivu. Une attaque armée a visé le bureau de la commune Moussoussa, plongeant la ville dans la panique. Bilan provisoire, un policier tué, un assaillant blessé. L'incident s'est produit aux premières heures du jour, sémant l'inquiétude au sein de la population. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse avec Marc Marufimbo.
L'attaque du bureau communal de Moussoussa par un groupe d'hommes armés de machettes et d'armes à feu est intervenue tôt ce vendredi matin. Selon des témoins, les assaillants avaient été aperçus la veille au quartier Chimbwe à une centaine de mètres du lieu d'attaque où ils auraient même passé la nuit. Lors de leur équation, ils ont violemment agressé les policiers chargés de la garde, les blessant grièvement à la machette. Ce dernier a succombé à ses blessures. Les mêmes sources indiquent qu'un des assaillants aurait été atteint par balle. Cette attaque a semé une vive panique dans la commune, perturbant les activités de la matinée. La société civile dénonce une attaque ciblée contre les forces de l'ordre et appelle à l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs soient retrouvés et jugés. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baikiteli Roger, s'est rendu sur les lieux. Il confirme les faits et affirme que les assaillants ont emporté l'arme du policier. Il assure que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour identifier les responsables. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité électorale en RDC, l'action pour la justice, le développement et le droit humain dans la province de la Tchopo salue la publication du calendrier électoral pour les élections urbaines et municipales rendues publiques le 22 juillet par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Mais l'organisation ne s'arrête pas là. Elle appelle la centrale électorale à garantir un processus inclusif, transparent et crédible. Une exigence forte pour renforcer la confiance des citoyens dans ce scrutin. Avenir. Les précisions avec Jacques Moukonkolé.
La publication du calendrier électoral et local par la CENI est un pas important vers la consolidation de la gouvernance locale en RDC, peut-on lire dans les communiqués de presse de la JDDH, publié hier à Kinshasa. Cependant, ce document exprime quelques préoccupations susceptibles de compromettre la crédibilité du processus électoral si elles ne sont pas prises en compte. Il s'agit notamment de l'inclusivité et la transparence. À cet effet, l'implication de toutes les parties prenantes est requise. La JDDH trouve également que la faisabilité du calendrier électoral est complexe dans la mesure où beaucoup d'étapes doivent être franchies dans un temps limité. À ces deux inquiétudes, cette organisation ajoute le rôle des juridictions électorales. Celles-ci doivent faire preuve d'impartialité, d'équité et de célérité dans le traitement des contentieux électoraux, souligne Jacques Issongomfoutou, coordonnateur provincial de cette organisation. Ceci pour éviter toute suspicion de manipulation. Par ailleurs, la JDDH exhorte les Congolais en général, les jeunes et les femmes en particulier, à s'approprier pacifiquement ce processus. Sa réussite dépendra de la transparence, de la confiance du public et du respect des normes démocratiques, conclut ce communiqué. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Kinshasa, la jeunesse congolaise se mobilise pour la paix et le vivre ensemble, consciente, engagée et portée par la diversité de ses mouvements et structures. Elle affirme sa volonté de contribuer activement au pacte social pour la paix, une initiative conjointe de la SINCO et de l'Église du Christ au Congo. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi à Kinshasa Mukenge Totoro, coordonnateur national de la nouvelle génération congolaise, lors de la présentation de ce pacte aux jeunes par le représentant de deux grandes confessions religieuses, Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga, porte-parole des circonstances. Mukenge Totoro a souligné que, après avoir compris le sens et la portée de cette initiative, la jeunesse a décidé d'y adhérer pleinement et d'y apporter son expertise. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Il vous souviendra que les prélats avaient entamé les consultations vers toutes les parties prenantes et les composantes de la société congolaise. Et alors, il était question de pouvoir finir avec la jeunesse congolaise. Cela fait suite du mécontentement que la jeunesse congolaise avait eu à adresser au pacte social par rapport à la considération que la plupart de ceux qui veulent trouver des solutions aux problèmes congolais réservent à la jeunesse congolaise. Et donc la jeunesse congolaise avait exigé qu'elle soit prise à sa juste valeur, au même titre que les autres composantes. Et la jeunesse n'a fait qu'écouter et comprendre, et les leaders des jeunes se sont donné rendez-vous pour qu'ils puissent se rencontrer pour étudier encore davantage et apporter leurs idées dans ces projets de pacte. Et la jeunesse congolaise a promis de s'organiser encore davantage.
Mukenge Totoro, coordonnateur national de la nouvelle génération congolaise et porte-parole de circonstances de cet échange citoyen, a lancé un appel fort à la jeunesse congolaise, suivre l'exemple de Wazalendo. Pour lui, ces combattants incarnent le héros de notre époque pour leur courage et leur engagement. Une preuve, selon lui, que la jeunesse congolaise n'est ni passive ni résignée. Elle est debout, consciente et prête à assumer pleinement ses responsabilités. Rencontre ce jeudi à Kinshasa entre le vice Premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba et une délégation de Christian Blade Mission conduite par Madame Irène Essambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Au centre des échanges, la mise en œuvre du programme national de prise en charge des personnes en situation de handicap. Les discussions ont également porté sur l'adoption par la RDC de sa politique nationale des promotions et des protections de droits de ces personnes, ainsi que sur la stratégie qui l'a compagne. Mbake Nyang, directeur du programme global de Christian Blind Mission International, revient sur le temps fort de cette rencontre au micro de Blaise Makassi.
Nous venons de rencontrer le vice-premier ministre. C'était pour d'abord remercier le gouvernement de l'adoption de la nouvelle stratégie, de la nouvelle politique. Pour nous, c'est une excellente avancée par rapport à tout ce qui doit se faire pour la prise en charge de l'handicap en RDC. Deuxième chose, nous avons eu une rencontre préalable avec Madame la ministre. Nous sommes venus ici confirmer les grandes priorités sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec la ministre, notamment la vulgarisation des textes, ensuite la prise en charge des questions de capacité, la mise en œuvre de son administration, mais aussi et surtout les questions des données par rapport à la prise en charge de l'handicap. Toutes ces questions ont été discutées et nous sommes venus ici réitérer devant le vice-premier ministre notre engagement en tant que CBM d'accompagner le gouvernement. Nous sommes là depuis des années. Nous avons accompagné le ministère pour le développement de cette politique. Donc nous allons continuer. Ce partenariat va se renforcer.
En prélude à la session budgétaire de septembre, l'Assemblée nationale et le gouvernement central affûtent leur violent objectif, harmoniser le vu sur les grandes priorités nationales. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation gouvernementale menée par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogi, représentant la première ministre Judith Suminwa. Empêcher cette rencontre initiée par le président de l'Assemblée nationale a permis aux deux parties de s'accorder sur l'importance de garantir une gestion rigoureuse des finances publiques en mettant l'accent sur les priorités du pays, notamment la question sécuritaire. Un compte-rendu signé Michel Kifinangoy.
Prenant la parole devant la délégation gouvernementale constituée des ministres et vice-ministres du budget et des finances, le président de l'Assemblée nationale affirme que le retour de la paix et la sécurité dans l'est du pays constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe recommande au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et le bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la commission ECOFIN, Guy Mafouta, donne ici la restitution de cette réunion.
Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de nos territoires nationaux, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix. Le président de l'Assemblée a toujours été clair. Il faut soutenir par notre attitude, par nos dires. Arrivera un moment peut-être qu'on abordera la question au sein de l'hémicycle.
Pour assurer un contrôle parlementaire efficace, l'Assemblée nationale lance 11 missions d'enquête parlementaire et il était également question que le gouvernement cerne la pertinence de ces missions, souligne Guy Mafouta.
Actualité internationale.
Le Programme alimentaire mondial, PAM, a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi, signalant que près d'un tiers des habitants de la bande de Gaza n'ont rien mangé depuis plusieurs jours. La malnutrition progresse rapidement, touchant gravement 90 000 femmes et enfants qui nécessitent une prise en charge urgente. L'agence onusienne qualifie la situation de désespoir sans précédent alors que ses stocks alimentaires sont désormais épuisés. Dans une déclaration poignante, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le manque de compassion et d'humanité envers les Palestiniens. Ce que traverse Gaza n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une crise morale qui défie la conscience mondiale, a-t-il affirmé lors d'une intervention vidéo à l'Assemblée d'Amnesty International. Il a fustigé l'indifférence de la communauté internationale face à la souffrance des civils, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un accès sans entrave à l'aide humanitaire.
L'invité.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié jeudi un communiqué rectificatif concernant le calendrier des élections locales, une mise à jour qui corrige une erreur matérielle relevée dans une précédente note. Ces nouveaux chronogrammes concernent le scrutin des conseillers urbains, des maires et de leurs adjoints, ainsi que des bourgmestres et leurs adjoints sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit, selon la CENI, de la dernière étape du cycle électoral en cours. Pour en parler, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, à l'invité de Radio Okapi. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Suivez.
Bonjour monsieur Jean-Baptiste Itipo.
Bonjour la Radio Okapi.
La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de publier un nouveau calendrier. Que comprendre de ces documents?
En fait, le calendrier rendu public à la date du 22 juillet 2020, c'est un calendrier électoral qui porte sur les élections des conseils urbains, des maires et maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints, dont la Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce calendrier qui normalement rentre dans le cadre de l'application du calendrier électoral rendu public depuis 2022.
Ce nouveau chronogramme précise les étapes à venir pour les élections de bourgmestres, maires et leurs adjoints. La CENI a-t-elle les moyens de sa politique?
Vous savez que le processus électoral en République démocratique du Congo est financé entièrement par le gouvernement de la République. À ce niveau, tout le monde a été informé des échanges entre la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement à travers la vice-primature chargée de l'intérieur. J'ose croire que le gouvernement mettra des moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI exécute ses calendriers rendus publics.
Les communs des mortels se posent des questions, à savoir qui sont habilités à voter les bourgmestres, les maires et leurs adjoints.
Très très bonne question. Les bourgmestres adjoints ainsi que les conseillers urbains sont élus au second degré par les conseillers communaux. Par contre, les maires et maires adjoints sont élus au troisième degré par les conseillers urbains. Et je précise que il n'y aura pas élection de maire et maire adjoint à Kinshasa, parce que Kinshasa a le statut d'une ville-province et que l'élection de bourgmestre, bourgmestre adjoint, conseiller urbain, maire et maire adjoint va se réaliser uniquement dans les communes situées au chef-lieu des provinces.
Quel est le sens que vous donnez à ces calendriers publiés pour apporter la correction?
Juste une petite erreur qui s'est glissée en ce qui concerne l'élection des maires et maires adjoints. Vous avez l'habitude d'utiliser l'ordinateur, il y a parfois les effets des copier-coller et cela est arrivé malheureusement. Et donc voilà pourquoi on a rendu public un autre communiqué pour dire que les maires et les maires adjoints sont élus par les conseillers urbains. Mais la première partie de votre question est intéressante parce que le calendrier rendu public va permettre au pays d'asseoir davantage la démocratie à la base. Désormais donc, nos bourgmestres seront élus et donc seront redevables vis-à-vis de la population. Parce que les conseillers communaux qui vont élire les bourgmestres et bourgmestres adjoints doivent le faire au nom de leurs électeurs. Ils vont agir conformément au mandat qu'ils ont reçu du souverain primaire. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des actes de corruption des conseillers communaux pour élire le bourgmestre, bourgmestre adjoint ou le conseiller urbain.
Quel est le soubassement juridique de ce texte que la CENI vient de publier?
En fait, le soubassement juridique, c'est normalement la loi électorale qui donne mandat, et même la Constitution de la République donne mandat à la CENI d'assurer la régularité du processus électoral. Et voilà, la CENI est dans cette prérogative constitutionnelle d'assurer la régularité du processus électoral en République démocratique du Congo.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à la Radio Kapi.
Invité du journal, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, a apporté des éclaircissements sur le réajustement du calendrier électoral local et les enjeux cruciaux de cette ultime étape du processus électoral. C'est tout pour ce journal. Mise en onde par Dieudonné Nyangasa, coordination par Jude Mister Bilanda et présentation par Gisèle Cage. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. À très bientôt pour une nouvelle édition.